que Radio Capuné le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Que dit la loi sur les arrestations arbitraires? Certaines personnes sont arrêtées et jetées en prison pour des problèmes qui ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Leur malheur, c'est de se retrouver au mauvais endroit et au mauvais moment après qu'une infraction a été commise. Ces personnes que les Kinois appellent innocents, mauvais, croupissent en prison depuis des années, sans condamnation, sans procès. Donc, il n'y a eu rien. Ils se retrouvent comme ça pendant 5 ans en prison, sans suite. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Alors, que dit la loi par rapport à ce genre de situations? Aujourd'hui, au Capi Service, on reçoit le professeur Nicole Toumba Boitia, il est professeur de droit à l'université de Kinshasa. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, Jeudi. Merci de m'avoir invité.
Voilà. En nous parlant des arrestations arbitraires, que dit la loi à ces sujets?
La loi pénale, donc la loi pénale congolaise, en son article 67 du Code pénal livre 2, définit exactement ceci. Bon, j'ai pas retenu de mémoire, je vais donc lire. C'est le fait d'enlever ou de faire enlever, d'arrêter ou de faire arrêter arbitrairement, de détenir ou de faire détenir une personne quelconque à l'aide de ruse, de violence ou de menace, constitue une infraction d'arrestation arbitraire et de détention illégale. Mmh. Voilà donc la prévention telle que libellée par le code pénal.
Dans des termes beaucoup plus simples.
Des termes beaucoup plus simples. Donc, c'est une personne que l'on arrête sans qu'il soit justifié une infraction. C'est-à-dire que vous savez que notre loi est très légaliste, la loi pénale est très légaliste. On a un adage en droit pénal qu'on dit « nullum crimen, nulla poena sine lege », c'est-à-dire pas de crime, pas de sanction sans la loi. Donc il faut d'abord qu'il y ait la loi pour qu'on puisse prévoir la sanction et l'infraction en question. Mmh. Alors, une personne que l'on détient par devers soi sans qu'il y ait une infraction, est détenue arbitrairement. Ou bien une personne qui a été détenue, même s'il y a eu une infraction, mais qui est détenue avec des délais hors la loi, est aussi une personne qui est détenue, qui est donc arrêtée arbitrairement.
Mmh. Voilà. Mais nous parlons des innocents. Il y a eu infraction quelque part. La personne ne connaît pas ce qui s'est passé, mais par malheur, elle s'est retrouvée
au mauvais endroit, au mauvais moment.
Et puis, elle est partie. Alors, que prévoit la loi exactement pour ces genres de personnes?
Bon, d'accord. Quand il y a une infraction de ce genre-là et que vous êtes dans un endroit où il y a eu une commission de cette infraction, la pratique, la loi veut qu'on vous prenne d'abord. Parce qu'on vous prend, on prend tout le monde.
C'est après même les que passants, on prend tout le monde.
Parce que bon, on va dire que le terrain est miné pour le moment. Le terrain est miné. Oui. On embarque tout le monde. Et c'est une fois qu'on sera au niveau du parquet ou même au lieu de l'audition qu'on va maintenant traiter l'affaire au cas par cas. Mais pour sécuriser, faire la sécurité, enfin l'ordre public, n'oubliez pas que le ministère public, c'est d'abord sa fonction régalienne, c'est d'abord l'instauration de l'ordre public. En tout cas, que l'ordre public ne soit pas troublé. Donc s'il y a eu une infraction à cet endroit-là, et qu'il y a eu des innocents, entre guillemets, autour, avant de réfléchir, on prend d'abord. Parce que vous imaginez, si chacun, non, moi j'ai rien fait, on perd du temps, et ça risque de s'envenimer. Oui. Donc, pour question de sécurité, même pour ces personnes-là, on les prend d'abord et on va discuter après. Quand on discute après, au cas par cas, on sait voir que non, tel, et on les relâche. En France, plus loin, ce sont des arrestations administratives, on va dire. Donc, simplement pour savoir et réellement quel est le lien de causalité entre l'infraction qui se passe et vous, la personne qui est à côté.
Voilà, mais parfois, ça arrive, vous dites que je connais rien de ce qui s'est passé, on vous colle une infraction, vous dites non, tu étais là. Donc c'est...
Mais le magistrat qui fait ça, je ne pense pas qu'il le dise comme ça. Le magistrat qui fait ça doit d'abord faire ce qu'on appelle une instruction préjuridictionnelle. Il doit d'abord confronter les faits à la loi. Et ça, c'est obligatoire. Donc il doit voir si le fait répréhendé entre dans la qualification juridique de la loi. Si elle n'est pas, le magistrat est tenu de classer le dossier sans suite pour faire infractionnel non établi ou inopportunité de poursuite. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut classer un dossier. Donc je ne pense pas, en tout cas, voilà, je ne pense pas qu'une personne peut rester comme ça sans qu'on l'ait lu les droits. Sinon, à ce moment-là, il y a atteinte même au principe de droit de l'homme.
Voilà, nous avons la question, il y a Gustave qui nous a écrit, les Kananga, il dit, en ce qui concerne les violences sexuelles, il y a beaucoup de jeunes innocents, ici à Kananga, qui se retrouvent en prison, en train de purger la peine, sans raison valable. Qu'est-ce dit notre invité à ce sujet? Ça, c'est la question de Gustave de Kananga, Mukendi de Kananga.
Bon, évidemment, je ne peux pas dire que tout est parfait. Il y a certaines personnes qu'on arrête, qu'on détient, simplement pour besoin d'enquête. Ok, bon, vous me direz, les raisons d'enquête peuvent être élastiques, ça je vous le concède, mais le magistrat est suffisamment indépendant, suffisamment habité d'une probité morale pour savoir que non, telle personne, je la garde en détention jusqu'au temps que je trouve des éléments probants qui constitueraient l'effraction de viol dans le cas d'espèce. Mais s'il n'y a rien, il est tenu de libérer la personne. Il est tenu de libérer la personne. C'est-à-dire que la loi a précisé des périodes pour lesquelles on peut présenter cette personne devant le juge, confirmer la détention ou l'infirmer. Bref, toutes ces périodes-là font que tiennent le magistrat. Et s'il y a violation par rapport à ces tenues de délai, on peut se retrouver dans une arrestation arbitraire. Mais pour la personne qui est l'innocent dont on dit qu'il a violé, malheureusement pour lui, aussi longtemps que le magistrat n'aura pas cette intime conviction, tout en respectant les délais bien sûr, il ne pourra pas vraiment le libérer tout de suite, à moins qu'on arrive jusqu'au bout de
parce qu'on a l'impression que c'est devenu aussi un business où il y a des jeunes filles qui s'arrangent pour fabriquer des histoires sur le dos des jeunes gens, et puis voilà.
Exactement, mais ça, je crois qu'on doit mettre dans un contexte de misère, de pauvreté un peu généralisée comme ça, où tout le monde est en quête de survie. Tous les moyens sont bons, hein, je ne dis pas que c'est les meilleurs, mais tous les moyens sont bons pour pouvoir coller une affaire. Et ça, c'est pas seulement ici, hein, au Congo, hein, c'est partout dans le monde. Il y a des gens qui sont véreux et qui vont coller une affaire de viol. Mmh. Hein, elle entre dans un magasin ou dans un bureau, elle déchire ses vêtements, elle dit « on m'a violée,
voilà.
on m'a violée ».
Écrit,
voilà, c'est ça.
Donc, et on vient, on arrête ceux qui sont là.
Enfin, on l'arrête d'abord. Il faut d'abord arrêter. Hein, oui. Parce que la victime est la personne pour qui on doit prêter une attention particulière. Et c'est à ce moment-là que les enquêtes peuvent commencer. Et on peut déduire que non, finalement, c'est trop de bruit pour rien. Voilà.
Bien, nous avons Aline Joseph Kilala, des Kalemi. Vous voulez également participer à cette émission, appelez-nous au 081 890 63 94. Joseph Kilala, bonjour, et quelle est votre question?
Oui, bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à l'invité.
On vous écoute, Joseph.
Ah oui, moi j'avais une petite proposition, parce que vous savez, monsieur le journaliste, l'arrestation arbitraire, c'est un problème d'information. Avant que moi je sache que ça c'est une arrestation arbitraire, il faut que d'abord je sois informé qu'est-ce que c'est l'arrestation arbitraire. La loi dans notre pays, moi je crois qu'on devait mettre un système d'information. Il faut que même la population de basse classe soit informée de leurs droits, parce que les Congolais en général, à 80%, ne savent pas comment réclamer leurs droits auprès des autorités, quoi. C'est pourquoi il y a tant de situations pareilles qui se présentent dans le pays. Moi, je crois qu'on devait mettre en place un système d'information pour que tout le monde ait un niveau élevé pour éviter ces genres d'arrestations, quoi. C'est ça ma préoccupation.
D'accord, merci. Victor Moufoya, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, et quelle est votre question?
Merci, monsieur l'invité. Bonjour à l'invité. Merci, Jody Kassama. Moi, j'avais une petite préoccupation. Je te dis des cas des innocents. Une personne qui est arrêtée, mais les juges se rendent compte qu'il est vraiment innocent. Que prévoit la loi pour ces cas? La personne arrêtée sera dédommagée ou bien c'est comment?
D'accord, merci. Professeur Nkotumba.
Oui, d'accord. Pour répondre à mon ami José, je suis tout à fait d'accord avec lui. La loi doit être vulgarisée, c'est clair. On dit bien que nul n'est censé ignorer la loi. Ça c'est dans la théorie. Mais en pratique, il est vrai que...
Il y a des gens qui ignorent la loi.
Et que je crois que le code pénal, d'ailleurs, devrait être complètement distribué, gratuitement, même vulgarisé partout. Pour que les gens...
Traduit en langue...
Traduit en langue, les quatre langues nationales principales, en tout cas, puisque pour la Constitution, on l'a fait. Pourquoi pas pour des différents... Je sais que c'est un travail énorme, titanesque, mais je crois qu'on peut le faire pour que les gens sachent exactement à quoi en se tenir devant un fait, et à quel moment il est délictueux, à quel moment il est infractionnel, et à quel moment il n'est pas du tout. Je suis tout à fait d'accord avec Joseph.
C'est ce que nous dit même Blanchard Loana, qui nous a écrit sur la page Facebook de l'émission. Il dit, comment peut-on dénoncer une arrestation arbitraire quand on est sous-informé en la matière, par exemple quand on vient récemment du village et qu'on vous arrête simplement parce que les services intelligents vous suspectent d'être rebelle.
C'est clair. Donc nous sommes encore dans cette affaire de vulgarisation. Et je crois que même les magistrats eux-mêmes ont pour mission, le magistrat est d'abord une personnalité en quête de paix, il est tenu d'expliquer à la personne arrêtée d'abord ses droits. En Amérique, ils vont plus loin, on lit les droits de la personne arrêtée, mais je crois que le magistrat est tenu d'expliquer, de faire comprendre les raisons pour lesquelles il est là. Et à ce moment-là, moi d'ailleurs, je crois qu'il faut même décortiquer ce qu'on appelle qualifier les faits, c'est-à-dire telle infraction, on vous arrête, on dit voilà. Dans le code pénal, il y a deux éléments qu'on tient en considération, les éléments matériels et les éléments psychologiques. Éléments matériels du vol, par exemple, du vol.
Hein, le juge est tenu d'expliquer.
D'expliquer, il dit, bon voilà, il y a soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui. Les éléments matériels et psychologiques, c'est quoi? L'intention frauduleuse de soustraire. Ouais, donc tout ça, on peut expliquer tout ça. Et si ça entre dans le cadre du fait délictueux, on peut arrêter. On peut arrêter la personne.
Voilà. Victor dit un innocent, on l'a condamné pour rien, pour une affaire que la personne ne maîtrise pas. Mais après, quand on se rend compte que la personne est innocente, est-ce qu'on va la dédommager?
En principe, oui. Je dis bien en principe, oui. Parce que là, c'est une détention arbitraire et illégale. Et surtout, on a privé à la personne de sa liberté, comme ça, gratuitement. Et je crois que dans les pays, dans les systèmes judiciaires organisés, on dédommage la personne. Donc, c'est la moindre des choses, en tout cas.
Alors, là, c'est automatique ou la personne doit commencer une action, doit porter plainte ?
Non, porte pas plainte à ce moment-là. Donc, s'il voit que ça ne vient pas, elle peut porter plainte. Mais je crois que c'est automatique. Donc, mais ça, il faut le faire avec des avocats. Je crois que les avocats, il faut prendre un avocat qui est beaucoup plus rodé dans ces arcanes judiciaires pour aider la personne qui veut se faire dédommager. Voilà.
John Ebunde nous appelle des Kamina. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Quelle est votre question, John?
Bon, moi, j'aimerais seulement avoir une demi-heure. J'ai un cas que j'ai vécu ici, chez moi, à Kamina. Il y a ça, mon ami, qui ont commis un accident de vélo. Alors, ils se sont cognés, mais c'était vraiment un léger accident. Il n'y avait pas eu de blessés. Mais la police a intervenu pour les arrêter. Alors, on les a mis au cachet de la police. Comme on sait bien, si, la police doit dans une personne... dans un délai de 48 heures. Alors, ces gens-là ont fait là-bas une semaine. La police a exigé seulement un montant pour les libérer. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Comme ici, chaque jour, il y a des agents de la MONUSCO qui passent là-bas pour vérifier les cas de personnes détenues. Alors, on les a déplacés dans leur cellule, on les met quelque part là, après la justice, on va encore le faire rentrer encore dans leur cellule. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce que je dois faire si
c'est reproduit
encore?
D'accord, merci. Eric Ngoy est à Kamina, est aussi à Kamina. Bonjour, Eric.
Bonjour, M. Jody.
On vous écoute, Eric.
Ok, j'ai un problème. Je voulais d'abord savoir que l'invité nous dise si nous prenons d'abord le cas d'une manifestation qui est autorisée, quand on autorise une manifestation et après on arrête les gens. Ces cas-là peuvent être qualifiés d'une arrestation arbitraire, ça c'est un. Et de deux, bon, si je suis arrêté arbitrairement, auprès de qui je peux me plaindre pour revendiquer mes droits, par exemple, parce que il se peut que les gens qui sont surtout dans des coins reculés, un policier peut arriver comme ça sans aucun papier, on arrête les gens et on l'amène, parce que certains ignorent leurs droits. Mais si on est arrêté comme ça, auprès de qui doit-on se plaindre? C'est des questions-là.
Bien, merci. Professeur Nicole Toumba.
Oui, voilà, merci beaucoup pour toutes ces questions. C'était John, hein, on est arrivé à John.
John, l'accident oui, de Camilla. Vélo, c'est ça? Oui, John, un accident de vélo. Oui. Et les policiers ont arrêté tous les deux, les deux parties, mais il n'y a pas eu d'accident. Et elle se retrouve comme ça en prison, au-delà des 48 heures, et lorsque la MONUSCO vient pour les visites, des routines, on les déplace, on les cache ailleurs, et après, on les remet en prison.
C'est malheureusement une pratique qui se fait, je ne peux pas dire le contraire, mais nous sommes encore dans cette question de connaître ses droits, de connaître ses droits. Mmh. Et il est clair que les personnes pour cette affaire de vélo, que les personnes qui ont été détenues au-delà de 48 heures, c'est vraiment on est en face d'une arrestation arbitraire manifeste. Mais je dis aussi que bon, tout dépend de.
On leur demande de payer un montant pour les libérer. Oui. Il y a eu accident de vélo et puis il n'y a pas eu de blessure, mais les personnes se retrouvent en prison. Dans les cachots de la police.
Voilà, tout ça, c'est parce que nous sommes dans des, il y a beaucoup de choses qu'il faut améliorer dans notre système judiciaire. Mmh. Tout n'est pas parfait, mais tout n'est pas mauvais non plus. Et malheureusement, il y a certaines autorités policières qui sont véreuses, qui trouvent que c'est le moyen pour se faire, pour rançonner. Mmh. Le rançonnage est aussi une infraction pour rançonner ou pour importuner les individus. Mais ça, il ne faut pas généraliser, ce sont des cas particuliers.
Mais il dit, mais qu'est-ce qu'elle lui peut faire pour aider son frère qui se retrouve en prison?
Alors qu'il aille voir l'autorité de la police, non? Mmh. Qu'il aille voir l'autorité hiérarchique de ce policier-là. S'il ne peut pas le faire, mais qu'il envoie un avocat ou quelqu'un qui peut réellement y aller. Je ne vois pas ce qu'il peut faire autrement. Donc voilà, il faut aller aux instances supérieures. Alors, en général, c'est ça.
D'accord. Mmh. Eric Ngoy de Kamina, il dit on arrête les gens lors d'une manifestation autorisée. Mmh. Alors, auprès de qui se plaignent?
Bon, on arrête des gens, il faut déjà que je dise, quand on arrête, ça revient un peu à ce que je dis tantôt, même si la manifestation avait été autorisée, la police est toujours anxieuse par rapport au débordement que cette manifestation peut avoir. C'est pour ça qu'il y a parfois un déploiement impressionnant des forces de police. Mmh. C'est simplement, c'est dissuasif, c'est vrai, mais c'est aussi pour respecter l'ordre public, parce que c'est d'abord l'ordre public qui compte. Alors quand on embarque tout le monde, je l'ai dit, voilà, il faut que le magistrat les entende individuellement et puisse se trancher. Bon, maintenant, une fois qu'on s'aperçoit qu'il y a arrestation arbitraire, je le dis encore, le magistrat est tenu. De relâcher la personne. Alors, quand vous dites qu'on les avait arrêtés au cachot, c'est la même personne, hein, c'est la même personne?
Oui,
c'est qui était détenue au cachot et quand la MONUSCO arrive.
Non, ça c'est un
autre cas. Voilà, je suis en train de. Il y a tellement de questions.
Oui.
Donc voilà, donc c'était pour dire que. Il faut être consciencieux dans son travail. Je crois que c'est la moindre des choses. C'est pas parce que nous sommes dans un état en construction, dans un système judiciaire qui parfois n'apporte pas toujours les garanties qu'on veut, qu'on doit s'enliser dans l'immoralité. Moi, je crois que quand on est investi de ce genre d'autorité, mmh. investi de ce genre de privilège, de juridiction, enfin de privilège, il faut quand même rendre compte bien son travail. Et ces personnes qui sont faibles, en fait, faibles, on va dire, du point de vue pénal,
et qui ignorent leurs droits,
il ne faut pas en abuser, parce que tout abus, en tout cas, constitue aussi une infraction. Il ne faudrait pas que l'autorité puisse, au nom d'une quête d'argent effrénée, se mettre lui-même en infraction, parce que je peux vous dire que même si pour quelques souvenirs que j'ai, même si le magistrat demande de l'argent ou s'évertue à faire des infractions, il ne faut pas toujours penser qu'on ne l'aura jamais. À un moment donné, quand il y a des instructions où ils sont déférés devant la section des magistrats, mmh.
Cela va les rattraper.
Ah oui, on les rattrape. Il y a eu des magistrats qui sont en prison à côté des personnes qu'ils ont fait arrêter. Mmh. Oui, ça c'est ça. Il faut, ça marche aussi. Hein. Donc il ne faut pas croire que tout est noir.
Voilà. Voilà. Pierre Massoukou est à Kalimi. Bonjour.
Oui, bonjour.
Quelle est votre question, Pierre?
Oui, j'ai des préoccupations que j'aimerais poser à notre invité. La première, celle de savoir, j'ai un ami qui avait engrossé une demoiselle majeure et après avoir engrossé cette demoiselle, le gars n'avait pas refusé la grossesse, il avait accepté la grossesse. Après avoir supporté cette grossesse, il est parvenu chez la famille de la fille. Après avoir fait un constat, ils étaient obligés d'envoyer les policiers pour venir récupérer les garçons et les mettre en prison. Au moment où je suis en train de parler avec vous, les gars se trouvent encore en prison. Alors, j'aimerais savoir que notre invité puisse nous dire quelle est la cause, quel est le motif qui a fait à ce que la famille et la fille puissent trouver ce motif-là et mettre les gars en prison. La deuxième préoccupation est celle aussi de savoir, il y a un ami aussi qui avait engrossé une fille mineure, elle n'est pas majeure, elle est mineure,
oui.
Et ce garçon, après avoir se rendu compte que non, ce que je viens de faire, c'est un crime devant la loi, il a pris fuite. Alors, la famille de cette fille à la recherche de ce garçon, Après avoir constaté que non, le mec a déjà pris fuite, ils ont récupéré l'ami à ces garçons qui a fui. Ils se sont dit que non. Après avoir arrêté d'abord ces garçons, comme celui-ci c'est son ami proche, c'est son ami intime, ils font qu'on l'arrête. C'est lui qui va dénoncer où est parti son ami. Jusqu'à présent, ces garçons aussi traînent encore dans la prison aussi longtemps que lui n'est pas coupable. Lui n'a pas engrossé cette fille. C'est ça mes deux préoccupations que j'aimerais poser à notre invité.
Bien, merci Massoukou, Pierre Massoukou de Kalimi. Serge Kalobia nous appelle des Kindou. Bonjour Serge.
Bonjour monsieur le journaliste, je dis Kachama et bonjour aussi à notre invité.
Oui, quelle est votre préoccupation?
Voilà, je salue d'abord tous les auditeurs de la radio Kapi et féliciter notre invité par rapport à ses explications brillantes. Je voulais un peu demander une chose à notre invité. Trois choses. Premièrement, chez nous ici, ils s'organisent chaque jour au maniement la patrouille. Et que chaque jour, les patrouilleurs commencent à vaquer dans ces activités à partir de 22h, 23h. Mais on se voit des fois arrêté à partir de 21h, 20h, vous êtes arrêté. Dans ce cas-là, hein, nous, on ne sait pas faire face aux commandos, parce que ce sont des commandos. On ne sait pas faire face aux commandos, on se voit arrêter, on se tait. On ne sait pas comment aller et qu'est-ce qu'il faut faire pendant qu'on vous arrête à 21h ou à 20h.
Oui, Serge, on vous arrête pour quel motif?
On vous arrête parce qu'à partir de 21h, on ne peut plus circuler, surtout aux extrêmes des milliers, hein, aux avenues foncées là-bas. À partir de 20h, on commence à arrêter parce que la patrouille s'organise chaque jour chez nous au Maniema. Deuxièmement, nous sommes à quelques 5 mètres du fleuve Congo. On arrête des fois les pagayères ici parce qu'une personne était succombée, était décédée en amont du fleuve. Maintenant, la dépouille est en train de trémousser avec l'eau. Et si les soldats marins ont vu seulement les cadavres, on vient arrêter tous les pagaères qui étaient là-bas aux alentours pour dire que non, voilà, vous n'étiez pas vigilants, c'est pourquoi la dépouille était passée. On vous arrête tous, c'est parce que vous avez fait la
non-assistance à personne à danger. Oui.
D'accord. Troisième chose. Ici, chez nous, encore à Kindou, ça s'est fait. Une personne est décédée, par exemple, sur une avenue. On peut venir arrêter même 5 à 6 ou 10 maisons. Oh, pour raison d'enquête. Et par la suite, même si les enquêtes ne sont pas encore terminées,
oui,
ou terminées, vous allez voir les gens rester dans des prisons, commencer à payer 100 000 francs, 500 000 francs. Et si vous ne payez pas 500 000 francs ou 300 000 francs, on vous a demandé, vous ne sortez pas. On peut même vous transmettre jusqu'à la prison centrale. Bon, je voulais demander à Madame l'invité, ces trois exemples que je viens de vous citer ici, est-ce qu'on peut parler des cas d'arrestation arbitraire? ou qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il y a, des gens qui n'ont pas d'argent pour engager des avocats comme moi là. On a fini les études, on n'a pas d'emploi. On peut se voir, vous êtes dans une famille, on arrête les siens et on n'a pas l'argent pour aller délivrer la famille, on n'a pas l'argent pour engager l'avocat. Voilà ce qui se passe maintenant. C'est tout ce que je voulais demander. Est-ce qu'il y a les cas là d'arrestation arbitraire?
D'accord, merci Serge Dekindou. Odin et Congo est en Bandaka. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jeudi. Bonjour aussi à notre invité.
On vous écoute, Odin.
Oui, j'ai trois petites questions que je voulais poser à notre invité parce que ça me dérange souvent quand je vois cette chose se passer à mes propres yeux, ça me fait du mal. Je voulais juste demander à l'invité qu'il puisse nous expliquer c'est quoi. Un prisonnier, et c'est quoi un détenu? Et la troisième est celle de savoir que, est-ce que quelqu'un qui n'est pas jugé par le juge est condamné? Il peut être emprisonné directement, donc le mettre ensemble entre ceux qui sont jugés et ceux qui ne le sont pas. C'est ça mes questions, si je suis un peu clair, je peux même répondre.
Voilà, pouvez-vous répondre à les questions, Odin? Vous avez dit d'abord, quelle est la première question?
Tu nous expliques c'est quoi un détenu.
Oui.
Le deuxième, c'est quoi un prisonnier. Et le troisième, c'est est-ce que quelqu'un qui n'est pas jugé peut être mettre en prison ensemble avec ceux qui sont jugés? Parce qu'ici, à Mbandaka, nous voyons, et tu n'es même pas jugé et on t'arrête et on te...
Voilà, d'accord. On a compris, il n'est plus en ligne. Donc, quelqu'un qui n'est pas jugé, on le met en prison avec les autres. Voilà, il veut en savoir un peu plus. Voilà, professeur, vous avez beaucoup de questions de la part des auditeurs. Okay. Commençons avec Pierre Masuku de Kalimi qui dit « Son ami a engrossé une fille majeure. Il a supporté la grossesse, mais la famille de la fille a appelé les policiers pour l'arrêter et le mettre en prison. Mm-hmm. » Alors, il veut en savoir un peu plus. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là?
Mais d'abord, je vais...
Il s'agissait d'une arrestation arbitraire. Et qu'est-ce que la famille doit faire pour le libérer?
Bon, là, c'est clair que c'est une arrestation arbitraire. En plus de ça, c'est proprement des faits civils. Donc, fait civil, c'est quoi? C'est-à-dire que le fait d'engrosser une majeure ne constitue pas une infraction. Donc, à la limite, le magistrat va simplement, si cette affaire lui est portée, il va classer le dossier sans suite pour fait civil. Mais bon, le fait qu'on ait arrêté la personne qui a engrossé, effectivement, c'est une arrestation arbitraire, à moins qu'on démontre qu'il y a eu des faits infractionnels par rapport à la personne physique de la personne, des coups et blessures peut-être, je ne sais pas, des injures publiques. Mais comme ça, si le fait d'engrosser simplement comme ça, on ne peut pas arrêter une personne pour ça.
Et puis il n'a pas renié, il a reconnu.
Donc, l'auteur de la grossesse. Je crois que manifestement, derrière, il y a peut-être une façon de mettre la pression sur le garçon pour répondre, de prendre ses responsabilités. Je crois que c'est plutôt une espèce de pression. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres moyens de faire prendre conscience de sa responsabilité que d'arrêter quelqu'un. C'est quand même
Il s'agit bel et bien d'une arrestation arbitraire.
Ça, c'est un cas d'une arrestation arbitraire.
Et qu'est-ce que la famille doit faire pour
le
faire libérer une?
Ben, aller se plaindre tout simplement au parquet, pourquoi pas, aller se plaindre au parquet à qui de droit, pour pouvoir dénoncer cette arrestation arbitraire. Nous sommes vraiment dans des éléments constitutifs de cette infraction-là. Donc, voilà.
Il parle aussi de son ami qui a engrossé une mineure cette fois-ci.
Ah, ben, voilà.
Et puis, il a pris fuite et on a arrêté son ami pour dire que voilà, il sait là où il se cache sûrement. Et son ami est en prison jusqu'à ces jours et lui, il a disparu dans la nature.
Bon, déjà, la personne qui a engrossé cette mineure, c'est une infraction. Parce que on va assimiler ça à un viol. Okay? Parce que on suppose que la mineure n'a pas encore l'esprit suffisamment mature pour pouvoir dire oui comme ça à une personne qui a une autorité sur elle. Donc, pour ça, on apparente cet acte-là à un viol. C'est déjà un
Mais est-ce qu'on
problème.
Doit arrêter son ami?
Voilà, on doit pas. Lui parti, il a fui. L'ami, on doit pas l'arrêter. Ça, c'est pas possible. Parce que d'abord, c'est pas l'auteur. Sachez que, comme je vous ai dit, que notre loi pénale est très légale. Et puis, l'infraction est personnelle. L'infraction est personnelle. C'est toi, la personne qui commet l'infraction, qui doit répondre. Pour preuve, quand vous mourrez, l'action publique s'éteint. Donc, parce que ce n'est plus rattaché à votre personne. Mmh. L'ami qui est arrêté par devers lui, eh ben, c'est encore un cas manifeste d'arrestation arbitraire. Mmh. Donc, on doit vraiment l'aider à sortir de là. Donc, saisir les autorités compétentes pour faire sortir l'ami parce qu'il n'a rien à voir dedans. Mais, comme j'explique toujours, c'est dans un contexte un peu d'imbroglio, c'est un contexte un peu de misère, de pauvreté où chacun veut.
L'ignorance de la loi,
voilà,
de ses droits.
Exactement. C'est simplement, pourtant c'est très simple, il suffit simplement d'avoir une dose de courage et aller dénoncer ce qui ne va pas pour aussi parce que si on reste dedans et ben c'est une violation manifeste des droits de l'homme, ça peut aller encore plus loin. Bon voilà, alors à ce moment là quand on dit scopas et tout ça.
Alors Serge Jacquine nous dit lorsqu'il y a des patrouilles là-bas à partir je crois de 21h et dès qu'on vous trouve quelque part c'est fini, on vous arrête et puis il semble qu'il y a quelqu'un qui est décédé au niveau du fleuve et son cadavre était en train de couler. Et lorsque les marins constatent qu'il y a eu décès, bien on vient arrêter tous les pirogués qui sont là pour non-assistance à personne en danger.
Ouais. Avant de répondre à mon ami Serge, je voudrais d'abord ajouter quelque chose par rapport à mon ami de début. Enfin, c'était qui ? C'était Pierre.
Pierre, hein, de Calémie.
Donc, je voudrais dire aussi que les magistrats eux-mêmes, le parquet est organisé de sorte que le procureur, il y a des visites que l'on fait dans les cachots, dans les prisons, simplement pour justement vérifier les cas irréguliers. Donc on n'attend pas toujours la MONUSCO. Donc c'est les cas irréguliers qui sont là et voilà, on descend et quand on constate cela, on le dit on le note. On transmet et dans les heures qui suivent la personne.
Donc on vérifie les dossiers de chaque prisonnier pour savoir est-ce qu'il y a eu.
Absolument. Et on descend dans les cachots, dans tous ces endroits privatifs de liberté. Alors pour revenir à mon ami, évidemment, si on vous dit qu'il y a, mettons, couvre-feu à 22h, je ne sais pas si c'était le cas, à 22h et qu'on vous attrape à 20h, mais bon, c'est tout à fait.
Mais apparemment là, il n'y a pas de couvre-feu.
Bon, couvre-feu, mais il s'est instauré d'une manière factuelle, c'est ça, qu'on ne peut pas sortir après 22h. Bon, qui a instauré ça ? Est-ce que c'est une autorité est-ce que c'est étatique ? Enfin, je ne sais pas. Mais je crois que si c'est entré dans les habitudes que ne pas sortir après 22h et qu'on peut être appréhendé par les policiers, moi je crois que le bon sens voudrait qu'on ne sorte pas à ces heures-là. Bon, vous allez me dire que sortir à 20h alors qu'on vous dit de ne pas sortir à 22h parce que le climat n'est pas sain, c'est votre propre turpitude. C'est votre propre turpitude. Mais si ça se fait, c'est vrai que, puisque ce n'est pas cristallisé dans un acte juridique, on reste libre. Mais il y a des contextes factuels qui font que mieux vaut respecter, mieux vaut se guérir. Enfin,
prévenir qui guérit. Il ne faut pas sortir à ces heures-là, sachant qu'on peut vous arrêter.
Voilà, exactement. Je crois que le bon sens, je voudrais. Alors, quant au pagailleur, qu'est-ce qu'il a fait, lui, là ?
Ben, quelqu'un est décédé, et puis lorsque les marins constatent qu'il y a un cadavre qui coule, et puis on arrête tous les pagailleurs, tous les piroguiers, aux environs, soi-disant, vous n'avez pas porté assistance à cette personne.
Mais je reviens encore à ce que j'avais dit au début. Donc le réflexe du magistrat, ou bien le réflexe de l'OPJ, c'est d'abord prendre tout le monde, parce qu'on a besoin de vérifier. Vous savez, quand on vous arrête, le premier réflexe, c'est quoi ? C'est pas moi, je n'ai rien fait. C'est pas moi, non, je suis innocent, on est toujours innocent. Alors, puisqu'on sait que tout le monde est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire, on doit prendre tout le monde et commencer à disséquer, à décortiquer l'infraction, savoir, voilà, non-assistance à personne en danger, c'est une infraction qui existe dans notre code pénal, et pour voir si cette infraction est consommée, on doit prendre tous les individus qui étaient aux alentours. Mais vous en faites pas, une fois qu'on a une idée, on libère systématiquement certaines
personnes.
Parfois on ne les libère pas, mais alors là, à ce moment-là, on tombe sous le coup de l'arrestation arbitraire, et comme je le dis, vous avez possibilité d'aller, mais il faut se munir d'une dose de courage. C'est aussi le découragement. Parfois, on dit oui, mais bon, je vais y aller, pourquoi ? De toute façon, c'est pareil, on ne fera rien. Mais non, justement, c'est ça qui fait que.
Là, c'est la famille qui doit faire ses démarches.
Absolument. Il ne faut pas se dire que non, là-bas, on demande de l'argent, là-bas, si, là-bas, on est fatigué. Non, bien au contraire. C'est ces éléments de découragement qui font que peut-être les mauvaises habitudes s'enlisent. À un moment donné, il faut prendre conscience, dire bon, c'est pas grave, je vais y aller et je ne sentirai même pas un rond. C'est possible.
C'est possible.
Voilà.
Alidor Mukendi nous appelle des Kananga, Prince Katsongo de Lubumbashi. Alidor, bonjour.
Bonjour, Didier Kassama. Bonjour, madame les invités. Bonjour à tous mes collègues qui vont parler devant moi.
Quelle est votre question, Alidor?
Oui, je dis que ça m'a vraiment dit merci. J'ai un problème que moi-même j'ai frappé à ma famille. Moi, Alidor, il y a maintenant une semaine, il y a eu mes petits frères qui ont discuté avec quelqu'un qui est notre voisin, tout au long de limite de parcelle. Et on a discuté, non, le tel dit, non, la limite c'est ici, et le tel dit, la limite c'est ici, mais il y a eu le calme. Quelques minutes après, le monsieur nous est allé voir les OPJ, il a accusé les petits frères que non, m'a fait une menace de mort, avec les machettes à main et tout cela. On a envoyé maintenant les convocations, et où les indications, mon petit frère, il était quelque part. Deux jours après, on a amené les convocations. On est venu pour arrêter mon petit frère là. Après, mon petit frère, avec son épouse, il y avait encore mon petit frère qui était innocent à tout. Lui, il était en dehors de la maison. Mon petit frère, il était dedans de la maison. Le petit frère signale le petit frère qui est mort, grâce au demandant côté, pour le faire dans la Libanda. Celui qui est mis après, on arrête mon petit frère là, on parle avec lui. Et celui qui était le problème, les victimes, il a fui. Quand nous sommes allés pour lui demander, il faut libérer mon petit. Il dit non, non, il a fait une rébellion, il a intégré pour qu'on n'arrête pas son grand frère. Alors, quand on demande de libérer l'enfant là, on demande 500 000 francs. Et alors, il est encore étudiant à la deuxième section. Ce jour-là, il a retenu l'examen. Je vais demander à les invités qui est habilité et combien de peines, si quelqu'un a fait une violence ou ça t'a fait quoi, pour demander le motif 500 000, 300 000. Est-ce qu'il n'y a pas mon temps bien fixé? On a fait un somme, on a libéré les petits là, et puis il a même retenu l'examen. C'est ça que je me demande. Est-ce qu'il n'y a pas le prix à l'OPG qui n'est pas capable, peut-être même pas, de passer de l'argent 500 000, 300 000, 200 000
hein? D'accord. Merci, Alidor. Prince Kasongo de Lubumbashi, bonjour. Quelle est votre préoccupation?
Bonjour, j'ai dit bonjour à l'invité.
On vous écoute, Prince.
Oui, j'avais une préoccupation qui je voulais m'adresser à l'invité. Je voulais juste poser une question concernant l'arrestation de Jean-Claude Muyambo, qui était arrêté il y a de cela une année et qui n'a jamais été entendu par la justice. Peut-on parler d'une arrestation arbitraire ou pas? Merci.
D'accord, merci. Professeur Nicole, vous avez des questions. Beaucoup de questions, hein. Ben rapidement, vous allez répondre à chaque auditeur.
Voilà, donc Alidor de Kananga, c'est ça, Alidor. Mm-hmm. On a arrêté son frère et puis sa femme.
Son petit frère a eu une discussion avec le voisin par rapport aux limites de la parcelle. Mm-hmm. Le voisin est allé l'accuser et puis on a envoyé des policiers l'arrêter. Alors un autre petit frère qui a vu les policiers venir a signalé à son frère de ne pas sortir et à la place on a arrêté ce jeune homme là. Et puis pour les libérer, on exige 500 000 francs congolais.
Bon, déjà le régime des sanctions est prévu par la loi, dont je vous ai dit que il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de peine sans la loi. Ce régime est bien appliqué. Donc maintenant, je ne pourrais pas vous dire à quel montant des amendes sont fixées aujourd'hui parce que je n'ai pas la loi devant moi. Mais voilà. Donc il y a, je confirme en tout cas, qu'il y a un montant légal qui correspond aux infractions qui prévoient l'amende, par exemple, qui prévoit une amende transactionnelle pour éteindre cette infraction-là. En tout cas, la loi le prévoit. Maintenant.
Mais pour ce cas précis.
Pour ce cas précis, nous sommes manifestement devant un cas d'abus. Un cas d'abus devant le chef des personnes qui fixent de manière arbitraire les montants. Mais vous voyez, je dis, il faut, c'est toujours l'environnement qui a fait passer certaines mauvaises habitudes comme étant une habitude, ça se passe comme ça toujours, alors que consciemment on sait que c'est pas ça. Maintenant c'est un problème de conscience de chacun. Hein? Moi, je crois que il faut être suffisamment.
Mais il faut pas payer ce montant-là.
Mais non.
Il faut trouver un avocat et puis.
Voilà, même si on n'a pas d'avocat, la personne peut exiger ses droits. Qu'on me montre le code, en tout cas le régime de sanctions pour ce genre d'infraction et combien je dois payer. Voilà, donc il faut avoir ce courage-là. Mais je comprends, on est intimidé devant l'autorité judiciaire. Et c'est le but aussi, en fait, pour nous empêcher aussi de commettre des infractions. Il faut avoir ce courage-là. On ne l'a pas toujours, mais il faut exhorter de plus en plus, en tout cas la population, à connaître ses droits, à les défendre jusqu'au bout, même si nous sommes dans un contexte parfois exceptionnel qui fait que l'autorité rançonne ou abuse. Donc moi,
Mais quelle est la sanction que la loi réserve en cas d'arrestation arbitraire?
Que je ne dise pas de bêtises, je n'ai pas la loi devant moi. Attendez. Je crois que c'est de 1 an à 5 ans. Oui, 1 an à 5 ans. C'est vraiment sous réserve de vérification. 1 an à 5 ans, selon la gravité des faits. Et puis, si l'arrestation arbitraire ou la détention a été faite avec des tortures, eh ben, à ce moment-là, ça peut monter jusqu'à 20 ans. Jusqu'à 20 ans. Donc il faut vraiment vérifier, que je veux vérifier encore. Mais bon, je suis dans les environs.
D'accord. Alors on va terminer rapidement avec ces deux questions. Serge qui dit il y a quelqu'un mort quelque part dans un quartier. Alors on arrête les gens dans plus de 10 parcelles. Donc vous comptez, on commence là jusqu'à 10, on arrête tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas, même si on doit arrêter tout le monde, on doit aller jusqu'à ce niveau-là, professeur?
Bien sûr que non. Mais qu'est-ce que je veux?
On embarque tout le monde.
Et on commence à disséquer. C'est un peu ça. C'est pas illégal, hein, ça. Le fait d'embarquer tout le monde. Non. C'est pas
même
illégal.
Jusqu'à 10 parcelles.
Oui, prenez. Parce que aussi longtemps que vous avez l'intime conviction que la personne qui a fait laquelle commis l'infraction peut se planquer, mettant dans la 10e parcelle, il faut aller jusque-là. Et voilà. Non, mais c'est vrai, on rigole. Mais c'est vrai.
Bien. Odin Kongo de Mbadakadi, c'est quoi un détenu? C'est qui un détenu, c'est qui un prisonnier, quelqu'un qui n'est pas jugé, et on les met ensemble avec les gens qui sont condamnés.
Normalement, non, on ne devrait pas les mettre ensemble, mais bon, nous avons des problèmes pénitentiaires. On a des problèmes des locaux pénitentiaires qui font défaut parfois.
Oui.
Donc c'est un problème d'infrastructure, je vais dire.
Oui.
C'est pour ça qu'on les met ensemble. Alors le prévenu, c'est simplement la personne qui arrive dans une instruction préjudicielle, c'est-à-dire avant connaître votre sort, quand vous êtes devant moi. Vous êtes prévenu, parce que déjà l'OPJ a fait son travail, il a relevé certains éléments infractionnels, et c'est à moi de faire l'instruction. L'instruction, c'est quoi? C'est comparer les faits délictueux au code. À ce moment-là, vous êtes prévenu. Mais maintenant, quand je confirme et que j'envoie, moi, magistrat, ministère public, j'envoie, l'affaire devant le juge compétent, et bien à ce moment-là, la personne se transforme en détenue. Un détenu quand il y a un jugement qui ressort de son état de prévenu, en fait.
D'accord. Bien, merci professeur Nicole Tombabouatia.
C'est moi qui vous remercie.
Il y a beaucoup de questions des auditeurs, donc on ne peut pas tout terminer dans une émission.
Et répondre vraiment.
Voilà. Je rappelle que vous êtes professeur à la faculté des droits à l'université de Kinshasa. Bon début de semaine.
Merci à vous aussi. Merci beaucoup à toute l'équipe.